Cinquième jour, la Samaritaine. Aimer la volonté de Dieu. Que la juste, que l'aimable volonté de Dieu soit faite, accomplie, louée et éternellement exaltée par-dessus toute chose. Amen. Amen. Une femme va tirer de l'eau au puits de Jacob, le puits de Sichar, son village, comme le font ses compagnes, tâche essentielle et banale. En plein soleil, il fait chaud. Ce jour-là, elle trouve un homme assis près du puits. Cet homme a soif, il est seul et fatigué. Il lui demande à boire et elle s'étonne puisqu'il est juif et elle, samaritaine. Il lui parle d'une manière étonnante. Il dit qu'il peut donner une eau vive. Elle rétorque qu'il n'a rien pour puiser et qu'il ne peut être supérieur à Jacob. Il parle d'une eau qui calme à jamais la soif, comme une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Elle le croit et, avec la spontanéité d'une femme pratique, sans trop y penser, elle demande cette eau. S'engage alors un dialogue intime sur sa vie à elle, une vie peu honorable. Elle voit qu'il sait tout, qu'il lit dans son âme. Il a soif, il est fatigué. C'est un homme. Serait-ce le Messie? C'est aussi le Fils de Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Vrai Dieu et vrai homme. Il est seul avec elle parce qu'il n'a pas voulu qu'elle ait avoué son passé devant d'autres. Grande délicatesse de Jésus. Chaque âme est unique à ses yeux. Il imposait les mains à chaque malade. Un par un. Comment être envieux quand il vous aime tel que vous êtes, que tout vous appartient, que vous êtes au Christ et le Christ à Dieu. Jésus parle donc en tête à tête avec elle, chose rare chez le Maître. Quand ses disciples reviendront, ils seront surpris de le voir parler avec une femme. Mais aucun n'osera poser de questions. Le dialogue se poursuit sur la question qui divise les Juifs et les Samaritains. Les premiers disent que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu, et ils méprisent les seconds. Jésus dépasse la controverse. Devant la Samaritaine, il fait exploser les dimensions du temple. L'important est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le lieu est secondaire. Partout, l'homme doit construire un temple à son Dieu. Comment cela est-il possible? Nous sommes appelés à devenir des temples spirituels, à construire la demeure de Dieu en nous. Nous sommes ces pierres vivantes avec lesquelles le Seigneur veut construire sa maison. Ce chantier, c'est généralement, pour l'immense majorité des chrétiens, celui du travail ordinaire. José Maria fera souvent appel à l'image des cathédrales. Il aimait y emmener les étudiants, monter à l'une des tours et leur faire contempler de près l'arête du toit, véritable dentelle de pierre, fruit d'un labeur patient, coûteux. Au cours de ces conversations, je leur faisais remarquer que d'en bas, on ne percevait pas cette merveille. Et pour mieux matérialiser ce que je leur avais si souvent expliqué, je faisais ce commentaire. Voilà le travail de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Achever son travail personnel à la perfection, avec la beauté et la grâce dans le détail de ces délicates dentelles de pierre. Il comprenait alors, devant cette réalité qui parlait d'elle-même, que tout cela était prière. Magnifique dialogue avec le Seigneur. Comprends-tu maintenant que la vocation professionnelle peut rapprocher du Seigneur? Essaye de faire comme ces tailleurs de pierre, et ton travail deviendra Operatio Dei, un travail humain en même temps que divin par sa profondeur et ses caractéristiques. La cathédrale où l'enfant Dieu veut se complaire, c'est notre cœur. Nous sommes ces pierres vivantes que l'architecte divin taille, polie, place au bon endroit. Il est, lui, Jésus, la pierre angulaire, le fondement de l'édifice ouvert aux gentils comme aux juifs. À tous les hommes appelés à faire fructifier la création depuis la Genèse, quand Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'un jour, en 1960, on demande à José Maria Escrivá quel est celui des oratoires de la maison romaine qu'il habite qui lui plaît le plus, il répond aussitôt « la rue ». Le sacrifice que Dieu attend des hommes, c'est celui de leur propre existence. Il s'offre en tout lieu. Quel en est le prêtre ? Chacun est prêtre de sa propre existence. L'autel du sacrifice, c'est le cœur de chaque homme. Mais en quoi consiste précisément ce sacrifice ? Dans le droit fil de la conversation qu'il a eue avec la Samaritaine, Jésus répond indirectement à ces questions lorsque ses disciples sont revenus. Il pense que le maître a faim. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le sacrifice que Dieu attend de chaque homme, c'est la manifestation d'une adoration authentique, d'un amour vrai. Celui qui aime accomplit les commandements, cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Voilà le mot-clé, la volonté de Dieu. Pour cela, il faut d'abord prier. Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Les amis de Jésus le citent en exemple et reçoivent ainsi des lèvres du Fils unique, le « Notre Père ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La pleine acceptation de la volonté de Dieu apporte nécessairement la joie et la paix, le bonheur sur la croix. On voit alors que le joug du Christ est doux et que son fardeau est léger. Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient. La nourriture de Jésus, ce qui le fait vivre parmi les enfants des hommes, c'est d'accomplir la volonté de son Père. Mains divines étendues sur la croix, vie remise entre les mains du Père pour nous donner l'esprit d'amour. Quand tu t'abandonneras vraiment entre les mains du Seigneur, tu apprendras à te contenter de ce qui arrive, à ne pas perdre ta sérénité si tes activités ne prennent pas la tournure que tu souhaites, malgré ton acharnement et les bons moyens que tu as employés. C'est qu'elles auront pris la tournure que Dieu voulait qu'elles prennent. L'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, c'est le symbole de l'Esprit Saint, l'amour, qui pousse le Christ à désirer le baptême de sa mort. C'est aussi l'eau de notre baptême. Faire la volonté de Dieu, c'est se mouvoir constamment comme un enfant de Dieu, sans jamais laisser au vestiaire le vêtement du baptême. C'est ainsi que l'on appelait au premier temps de l'Église, vêtement de lumière. Cette lumière est le Christ. C'est le Christ qui passe auprès de nous avec la croix. C'est le signe qui nous est fait sur le front au baptême. C'est de lui que nous sommes revêtus, plongés dans sa mort et dans sa résurrection. À toi qui te plains d'être seul, que ton milieu est hostile, je te fais remarquer ceci. Pense que le Christ Jésus, le bon Samaritain, sert chacun de ses enfants comme du blé dans sa main blessée. Qu'il nous inonde de son sang, qu'il nous purifie, qu'il nous lave, qu'il nous enivre, et qu'ensuite il nous lance généreusement dans le monde, un par un, car le blé ne se sème pas en déversant des sacs, mais grain par grain. C'est dans le milieu où l'on se trouve que l'on est prêtre et hostie, blé pour être moulu, farine que l'eau de l'esprit transforme en pain donné aux autres. Alors toute la journée devient une messe, unie à ce renouvellement sacramentel du sacrifice du calvaire qu'est chaque Eucharistie, offerte en tout lieu. Notre personne et nos actions sont cette goutte d'eau que le prêtre mêle au vin qui deviendra par l'esprit d'amour le sang du Christ, accomplissant sur la croix la volonté du Père. Bethléem, c'est l'abandon. Nazareth, le travail. L'apostolat, la vie publique, pain et soif, compréhension quand il fréquente les pécheurs. Et sur la croix, dans un geste sacerdotal, il étend les mains pour que nous ayons tous une place sur le bois. On ne peut aimer l'humanité entière si ce n'est depuis la croix. Nous devons avant tout aimer la Sainte Messe, qui doit être le centre de notre journée. Si nous vivons bien la messe, comment ne pas continuer ensuite, pendant le reste de la journée, à penser au Seigneur, en ayant soin de ne pas nous éloigner de sa présence, pour travailler comme il travaillait et aimer comme il aimait.
Thank you.